J'ai une excellente question pour vous. Y a-t-il des gens qui sont trop méchants pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui pourra transformer votre vie aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, que vous soyez croyants ou incroyants, cette émission est pour vous. Écoutez bien les questions qu'on va poser à l'Épître aux Hébreux aujourd'hui. Quand Jésus a dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », de quelle coupe parlait-il? Pourquoi était-il impossible que cette coupe s'éloigne de lui? Qu'est-ce que la Bible entend quand elle dit que Jésus a été élevé à la perfection? Quel est le danger qui nous guette pendant notre marche chrétienne? Qu'est-ce qui peut amener les croyants à être lent à comprendre la parole de Dieu? Qu'est-ce qui démontre de l'immaturité spirituelle chez un croyant? De quoi avons-nous besoin pour grandir spirituellement? Y a-t-il des gens qui sont trop méchants, trop pécheurs pour être sauvés? Demeurez à l'écoute, la parole de Dieu va répondre à chacune de nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, allons ensemble dans la présence de Dieu. Prions. Seigneur, on désire goûter à ta présence aujourd'hui. À travers l'enseignement de ta parole, touche nos cœurs et aide-nous à vraiment goûter à ta présence, goûter que tu es là près de nous pour nous enseigner toi-même. Nous t'écoutons, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu qu'il y a deux mauvaises façons d'approcher Dieu. Une est fondée sur les émotions, l'autre sur l'observation des rituels religieux. Nous avons vu qu'un prêtre est une personne choisie par Dieu pour représenter le peuple devant Dieu. Un prêtre doit être un représentant acceptable aux yeux de Dieu, une personne qui l'accrédite. Nous avons expliqué la distinction majeure entre un prêtre et un prophète. Un prophète parle au nom de Dieu. Il apporte un message de Dieu au peuple et il représente Dieu. Par contre, un prêtre représente le peuple auprès de Dieu. Il apporte des offrandes pour les péchés du peuple et il intercède pour le peuple. Aujourd'hui, notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur est Jésus-Christ. Il est Dieu fait homme. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour nos péchés. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus-Christ a pu s'offrir pour nos péchés parce qu'il n'a jamais commis de péché, et il n'a donc pas besoin d'offrir de sacrifice pour lui-même. De plus, étant éternel, Jésus-Christ est notre grand prêtre pour toujours. Nous n'avons plus besoin d'un autre prêtre pour offrir des sacrifices pour nous. Nous avons mentionné que seul Dieu peut appeler quelqu'un à la fonction de prêtre, et présentement, il y a un seul grand sacrificateur, Jésus-Christ. Nous vous avons rappelé que lorsque la Bible dit que le Seigneur Jésus a été engendré, cela s'applique à sa résurrection et non à sa naissance à Bethléem. À la dernière émission, nous vous avons quitté sur une scène du Seigneur Jésus au jardin de Gethsémané. Nous avons mentionné les trois fois où Jésus a pleuré dans la Bible. Il a probablement pleuré plus que trois fois, mais ces trois-là sont rapportés dans la parole de Dieu. La première fois, devant le tombeau de Lazare, devant la mort. Deuxièmement, sur la ville de Jérusalem, devant le péché de la ville de Jérusalem. Et troisièmement, au jardin de Gethsémané, devant notre péché. Chers amis, débutons notre lecture, Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. De quelle coupe parle Jésus dans le jardin de Gethsémané? Oui, dans le jardin de Gethsémané, le Seigneur Jésus a prié ainsi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » L'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, le verset 39. De quelle coupe parle le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémané? Peu de temps avant son arrestation, le Seigneur Jésus avait parlé d'une coupe avec ses disciples. Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » « Nous le pouvons, » dirent-ils. L'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 38. Un peu avant, il avait décrit la coupe. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et, trois jours après, il ressuscitera. » Marc, chapitre 10, les versets 33 et 34. La coupe au sujet de laquelle priait le Seigneur Jésus était sa crucifixion. Nous voyons l'humanité de Jésus-Christ dans cette prière. Il était Dieu fait homme, pleinement Dieu et pleinement homme. Comme homme, il a connu la souffrance et il connaissait l'atrocité des souffrances qui l'attendaient dans les heures suivantes. C'est volontairement que le Seigneur Jésus a accepté de mourir pour nous sur la croix. C'est volontairement qu'il a accepté de verser son sang pour l'expiation de nos péchés. Pourquoi était-il impossible que la coupe s'éloigne de lui? Notez que Jésus a dit « s'il est possible ». Il n'a pas été possible que cette coupe s'éloigne de lui. Ce n'était pas faute de puissance divine pour secourir le Fils, mais c'était le seul moyen que Dieu pouvait nous sauver tout en demeurant juste et saint. Si le Fils n'avait pas accepté de porter la dette de nos péchés, nous aurions dû payer cette dette nous-mêmes. Nous passerions l'éternité en enfer. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés, commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains chapitre 3, versets 23 à 26. Ce que dit ce verset se résume simplement à ceci. Dieu n'aurait pas pu laisser les péchés des croyants impunis et demeurer juste si Jésus-Christ n'avait pas accepté de donner sa vie en rançon pour eux. Il n'était pas possible que la coupe s'éloigne du Seigneur Jésus. Dieu le Père n'a pas voulu la retirer et le Fils a accepté volontairement de se soumettre au Père. Revenons au texte d'Hébreux chapitre 5, lisons les versets 8 et 9. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Voici une citation du nouveau commentaire biblique au sujet de ce verset 8. De plus, par l'expérience d'une telle discipline, lui, tout fils de Dieu qu'il fut, a pris la pleine signification et le prix de l'obéissance humaine. Il put, de ce fait, parfaire sa nature humaine et son aptitude à être pour les hommes la cause d'un salut éternel. Ceux-ci ne peuvent jouir du plein bénéfice de son œuvre rédemptrice que s'ils sont aussi baptisés du même esprit et pratiquent continuellement, quel qu'en soit le prix, une obéissance active au Christ. Que signifie « élever à la perfection » puisque le texte nous dit « après avoir été élevé à la perfection ». Pour être le souverain sacrificateur parfait, Jésus-Christ devait être élevé sur la croix. La venue de Jésus-Christ sur terre n'était pas suffisante pour nous sauver. L'enseignement de Jésus-Christ et sa vie exemplaire ne pouvaient pas être les instruments de notre salut. Tant qu'une rançon n'était pas payée pour nos péchés, tant qu'un sacrifice n'était pas offert pour nos péchés, nous sauver allait à l'encontre de la sainteté et de la justice de Dieu. Jésus-Christ a été élevé à la perfection lorsqu'il a complété son œuvre salvatrice par son sacrifice sur la croix. Dans ce contexte, l'expression « élevé à la perfection » signifie « achever, rendre complet ». L'auteur d'un salut éternel, Dieu, ne nous propose qu'un salut éternel. Si vous avez un salut que vous pouvez perdre demain, il n'est pas éternel. Ce n'est pas le salut qui vient de Dieu. Pour tous ceux qui lui obéissent, comment obéit-on à Dieu? Une foule a demandé à Jésus, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » L'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 28. Jésus a répondu, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Toujours l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 29. Désirez-vous obéir à Dieu? Alors, faites confiance à Jésus-Christ. Revenons au texte, lisons le verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dieu a agréé le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, la preuve étant sa résurrection. Jésus-Christ n'est pas souverain sacrificateur parce qu'Aaron fait partie de son ascendance, parce qu'il appartient à la tribu de Lévite, mais parce que Dieu lui a attribué cette fonction. C'est selon la volonté de Dieu qu'il s'est offert lui-même en sacrifice pour les péchés et que maintenant il intercède pour ceux qui croient en lui auprès de Dieu. Nous allons maintenant examiner le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Melchisédek était une image ou une personnification du sacerdoce de Jésus-Christ. Quel danger nous guette lors de notre marche chrétienne? L'auteur place ici une troisième borne afin de nous avertir d'un danger. Nous sommes arrivés à un feu rouge clignotant. L'auteur est prêt à prendre la grande route, mais avant, il doit regarder dans les deux directions s'il vient du trafic. Les croyants sont en danger de devenir lents à comprendre. Il traite de cette question dans le reste du chapitre, parce qu'au suivant, après un autre avertissement, il va traiter du sujet de Christ, notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. L'auteur n'a pas terminé avec le sujet. Des choses difficiles à expliquer. Qu'est-ce qui rend le sujet si difficile à expliquer? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, possiblement Paul, pouvait expliquer le sujet, mais les gens ne pouvaient pas comprendre. Après avoir entendu une prédication biblique, vous est-il arrivé de vous tourner vers votre mari ou vers votre épouse pour lui dire quelque chose à cet effet? Le pasteur n'était pas à son meilleur aujourd'hui, je crois qu'il aurait pu avoir un meilleur message. Vous est-il arrivé de vous demander si le problème n'était pas avec vous? Êtes-vous devenu lent à comprendre? Le problème n'est peut-être pas avec le prédicateur, mais avec l'auditeur. Que veut entendre un croyant lent à comprendre? L'expression grecque traduite « lent à comprendre » est traduite « paresseux à écouter » dans quelques versions de la Bible. Cette traduction du texte grec est justifiable. La paresse à écouter ou à étudier la parole ne nous permet pas de la comprendre rapidement. De nombreux chrétiens sont paresseux à écouter ou à étudier la parole. Le sujet de Christ, qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, peut être difficile, et l'auteur de l'Épître est sur le point d'approfondir ce sujet. Pour le comprendre, il faut une certaine perception spirituelle. Les gens doivent être alertes, éveillés spirituellement, et avoir une certaine maîtrise de la parole de Dieu. Les croyants hébreux à qui cette lettre est adressée avaient un QS bas. Je ne dis pas un QI, quotient intellectuel bas, mais un QS, un quotient spirituel. Il était difficile de leur enseigner, car ils étaient lents à comprendre. Ils étaient des nourrissons spirituels, comme le sont de nombreux chrétiens aujourd'hui. Ce qu'ils veulent entendre, ce sont des prédications divertissantes. Ils ne veulent rien entendre qui demande un effort de compréhension. C'est pour cette raison que certains prédicateurs s'en tirent malgré le fait qu'ils prêchent des inepties. Ou encore, ils massacrent la Bible en prêchant des idées personnelles ou de la psychologie populaire qu'ils font passer pour la parole de Dieu. De nombreux chrétiens aiment ce genre de prédication assaisonnée de paroles doucereuses. Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Certains d'entre eux veulent leur doctorat en théologie, mais ils ne maîtrisent pas encore l'ABC de la Bible, les principes les plus rudimentaires, alors qu'ils devraient être des chrétiens matures, capables d'enseigner. Ils ont très peu de maturité spirituelle. Exemple de comportement immature? Le pasteur McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons le matériel, a donné des exemples flagrants d'immaturité spirituelle. Alors que le pasteur McGee serrait la main de personnes qui quittaient l'église un dimanche, un homme est venu lui dire « Pasteur McGee, avez-vous une dent contre moi ?»« Non. Pourquoi me posez-vous cette question ?»« Eh bien, vous avez passé près de moi dans la rue hier et vous ne m'avez pas parlé. » Cela n'est pas faire preuve de maturité spirituelle. Le pasteur McGee n'avait pas vu l'homme, et celui-ci n'avait pas à présumer que son pasteur avait quelque chose contre lui. Une autre personne a dit, « Pourquoi le soliste n'a-t-il pas chanté ce matin? Nous voulons l'entendre chanter. » Nous avons des bébés dans les églises. Il leur faut leur rocher et leur biberon. L'auteur dit au destinataire de sa lettre qu'ils sont comme des bébés à qui il faut donner du lait parce qu'ils sont trop petits pour manger de la viande. Ils sont encore des enfants spirituels. Ils n'ont pas atteint leur pleine maturité. Un bébé ne peut pas manger de viande, mais un adulte peut aimer boire du lait. De nombreux croyants entendent de l'enseignement immature le dimanche matin. C'est malheureux qu'il en soit ainsi, mais c'est ce qui se produit malheureusement. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Cette personne ne connaît pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est nécessaire à la croissance spirituelle? J'aimerais souligner une chose. Je dis cela par amour, afin d'en aider parmi vous. Vous ne pouvez pas grandir sans une étude ou une méditation sérieuse de la parole de Dieu. Qu'importe si vous êtes très actif dans l'église locale, si vous avez un poste considéré prestigieux, si vous êtes un diacre ou le président d'un comité, qu'importe qui vous êtes, si vous n'étudiez pas la parole de Dieu et si vous ne la maîtrisez pas suffisamment pour l'utiliser pour encourager les frères et les sœurs, vous êtes un bébé spirituel. C'est malheureux de voir des personnes immatures occuper des postes clés dans l'Église. C'est malheureux que des personnes qui sont sauvées et membres de l'Église depuis plusieurs années ne font encore que prononcer des gogo-gaga-gougu spirituels. Ils ne sont pas capables de parler sauf comme un bébé. Tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur fasse faire un rapport ou un hoquet de temps à autre. Revenons à notre lecture, lisons le verset 14. « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » L'apôtre Paul a dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 et 2. L'apôtre Pierre a dit, « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. 1 Pierre chapitre 2, versets 1 et 2. Aujourd'hui, mes amis, j'aimerais que vous reteniez une vérité merveilleuse. Le fait que le Seigneur Jésus ait été élevé à la perfection, c'est-à-dire qu'il ait accepté de souffrir une mort atroce sur la croix afin de compléter son œuvre salvatrice, afin d'accomplir et d'assurer le salut de ceux qui croiraient en lui. La crucifixion du Seigneur Jésus était absolument nécessaire à notre salut. Nous sommes tous pécheurs, et nous sommes tous sous la condamnation divine. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains chapitre 3, versets 19 et 20. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14. C'est à la croix que le Seigneur Jésus-Christ a payé pour les péchés de ceux qui croiraient en lui. Tous les chefs d'accusation qui pesaient contre nous ont été éliminés, effacés, car le Seigneur Jésus a accepté d'être puni à notre place. Si le Seigneur Jésus n'avait pas accepté ce sacrifice, s'il n'avait pas accepté de devenir l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, alors nous devrions passer l'éternité en enfer. Dieu, étant saint et juste, ne pouvait pas laisser le péché impuni. C'était le seul moyen qu'il avait d'être miséricordieux envers nous, tout en demeurant juste. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains chapitre 3, versets 25 et 26. Dans l'Ancien Testament, une personne présentait un sacrifice pour ses propres péchés. Une fois par an, à la fête des expiations, le souverain sacrificateur présentait un sacrifice pour les péchés du peuple. Jésus-Christ est un souverain sacrificateur. Il a présenté un sacrifice pour les péchés de son peuple. Comment pouvons-nous savoir que nos péchés sont couverts par le sang de Jésus-Christ versé sur la croix? Eh bien, nous devons, premièrement, nous rendre compte que nous sommes un pécheur condamné. Nous avons des cœurs méchants et nous avons tous fait des péchés. Nous devons aller à Dieu dans la prière et reconnaître que nous avons péché contre lui et nous repentir. Nous devons accepter le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Nous devons venir au Fils de Dieu pour avoir la vie. Jésus-Christ s'est engagé à recevoir tous ceux qui viendraient à lui. Écoutez ce texte. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Citation de l'Évangile selon Jean chapitre 6, verset 37. Parfois, le diable nous dit que nous sommes trop méchants ou trop pécheurs pour être sauvés. Cependant, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus dit. Je le cite à nouveau. Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » L'Évangile selon Marc, chapitre 2, verset 17. Jésus-Christ est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs, et non pour ceux qui pensent pouvoir acheter ou mériter leur ciel. Toi qui écoutes présentement cette émission, tu veux être sauvé? Reconnais que tu es pécheur. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 9. Bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Tu as parlé d'un sujet dont nous parlons souvent à l'émission à travers la Bible. Et aujourd'hui, en t'écoutant, je me suis réjoui davantage de ce sujet en pensant qu'il y a sûrement parmi nos auditeurs des personnes qui pouvaient l'entendre pour la première fois ou des personnes qui ne s'y étaient jamais arrêtées auparavant. Mes amis, permettez-moi de répéter ce que Régent a dit, parce qu'au début de notre émission aujourd'hui, je vous ai dit que vous recevriez une réponse qui pourrait transformer votre vie. Et la réponse est celle-ci. nous pouvons savoir que nos péchés sont couverts par le sang de Jésus-Christ sur la croix si nous nous rendons premièrement compte que nous sommes des pécheurs condamnés. Nous avons des cœurs méchants et nous avons tous commis des péchés. Nous devons aller à Dieu dans la prière, reconnaître que nous avons péché contre lui et nous repentir. Nous devons accepter le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Nous devons venir au Fils de Dieu pour avoir la vie. Jésus-Christ s'est engagé à recevoir tous ceux qui viendraient à lui. Jésus a dit ceci dans le 6e chapitre de l'Évangile de Jean au verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Mon ami, voilà ce qui peut transformer ta vie. Aujourd'hui même, je ne te connais pas personnellement, mais Dieu te connaît. Il est ton Créateur. C'est lui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Peu importe ton âge, il connaît tout de toi. Il sait tout ce que tu as fait au cours de ta vie. Tu peux être de ceux qui ont mené une bonne vie, obéissant respectueusement envers tes parents, envers l'autorité. Tu n'as peut-être rien fait d'illégal. Tu t'es peut-être marié et resté fidèle à ton conjoint toute ta vie. Tu as peut-être élevé des enfants qui sont maintenant de très bons citoyens. Tu as peut-être fait plein de bonnes œuvres, aidé ta famille, tes amis, tes voisins. Mais il reste que tu es quand même un pécheur, une pécheresse perdue. Paul nous dit dans le 3e chapitre de son épître aux Romains que tous ont péché. Maintenant, il est possible aussi que tu sois plutôt de ceux qui ont fait le contraire de ce que je viens de mentionner. Tu as peut-être triché ton conjoint, fait des transactions illégales, volé, négligé tes enfants, refusé d'ouvrir ta main pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Tu es peut-être même dans une cellule de prison en ce moment, en train d'écouter notre émission. Et tu te dis peut-être, j'en ai bien trop fait pour que Dieu veuille me pardonner. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, même toi, oui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, mon ami, la vie éternelle, c'est pour toi. Si tu te reconnais pécheur, si tu te repens. La repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait qu'on veut s'en éloigner. Et maintenant, tu n'as qu'à croire au Seigneur Jésus. Paul et Silas ont dit ceci à un homme. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Sauvé de quoi? Sauvé du châtiment éternel qu'on mérite tous pour nos péchés. Alors, mon ami, demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Ce sauveur merveilleux a donné sa vie sur la croix pour toi. Il a payé pour tous tes péchés.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement, on est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire, et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.